Alors, continuons notre descente aux enfers, dans les ténèbres. Donc, une autre manière de fuir la condition humaine, c'est la drogue. Je vous dis, c'était une drogue d'intellectuel, d'artiste, dans le sillage des paradis artificiels de Wisman, de Cocteau et de tant d'autres. Ici, on trouve des drogués, comme par exemple le psychanalyste Lapérouse, le russe Fiodor dans L'imposture et la joie, Simone Alfieri dans Un mauvais rêve, et ainsi que le docteur Lipote. Alors, il y a beaucoup de médecins aussi chez Bernano, pas mal de psychiatres, de psychanalystes. Il les portait pas trop dans son cœur. Il avait lui-même, à un moment donné, après son accident de moto, il adorait la moto, il s'est cassé la figure, il est resté infirme jusqu'à la fin de sa vie. Après des opérations qui n'ont pas marché, il est resté avec deux cas jusqu'à la fin de sa vie. Et il a fait des crises d'angoisse à ce moment-là. Il n'est pas très tendre pour les médecins. Et voici ce que dit Simone Alfieri. Alors il y a aussi les jeunes drogués de Philippe et Olivier et le docteur Laville dans Un mauvais rêve et puis le docteur Laville à la fin dans le journal de la campagne. Simone Alfieri, avant d'accomplir un crime, demande au poison un surplus d'énergie. Citation. Le remède à son angoisse, à toute angoisse, était là, dans l'étroite poche doublée de peau, le sachet enfoui dans son corsage. Elle n'aurait qu'à ajuster sa seringue pour sentir sourdre, d'abord goutte à goutte, puis couler en elle la nappe d'oubli. Le curé de Torcy, l'autre personnage du journal de campagne, décrit le monde des drogués. Évidemment, il en reste encore l'espoir de se faire reconnaître par Satan. Bernique. Ils peuvent l'attendre longtemps, leur petit Noël noir. Ils peuvent les mettre dans la cheminée, leurs souliers. Voilà déjà que le diable s'y lâche déposer des tas de mécaniques aussi vite démodées qu'inventées. Il n'aimait plus maintenant qu'un minuscule paquet de cocaïne, d'héroïne, de morphine, une saleté de poudre quelconque qui ne lui coûte pas cher. Pauvres types, ils auront usé jusqu'au péché. Ce qui surprend avec le recul du temps, c'est que Bernanos a pressenti cet usage démocratisé de la drogue. Or, nous assistons évidemment à une extension, on peut dire, mondiale. Et cette forme de fuite de soi-même peut aller jusqu'à la tentation suicidaire et généralisée en un demi-siècle. Le diagnostic de l'auteur d'Un mauvais rêve va au cœur de la question. Ce qui est véritablement anormal chez le toxicomane, ce n'est pas qu'il use d'un poison, c'est qu'il ait éprouvé le besoin d'en user, de pratiquer cette forme perverse d'évasion, de fuir sa propre personnalité comme un voleur s'échappe de l'appartement qu'il vient de cambrioler. Aucune cure de désintoxication ne saurait guérir ce malheureux de son mensonge, le réconcilier avec lui-même. Le dernier mot de mensonge permet de descendre plus profondément encore dans le mystère du cœur humain. Nous retrouvons Simone Alfieri dans Un mauvais rêve, dont on nous dit « Bien avant la drogue, le mensonge avait été pour elle une autre merveilleuse évasion, la détente toujours efficace, le repos, l'oubli. » Le mensonge s'insinue dans presque tous les romans de Bernanos. Dans le premier, Sous le soleil de Satan, n'oublions pas que ça commence par une sorte de nouvelle. La jeune Mouchette Malorty, a tué le marquis Cadignan. Citation. Depuis qu'une nuit, d'un geste irréparable, elle avait tué en même temps, elle a 18 ans, hein, elle avait tué en même temps que l'inoffensif marquis, sa propre image trompeuse. La petite Malorty, Mademoiselle Malorty, se débattait vainement contre son ambition déçue. Fuir, échapper, l'eût accusée trop clairement. Elle avait dû reprendre sa place dans la maison. disons, du foyer paternel, maternel, qui n'est pas terrible. Mendier le pardon paternel avec un front d'airain, et plus un des plus silencieuses que jamais sous les regards de l'intolérable pitié, tramait autour d'elle le mensonge, fil à fil. Demain, disait-elle, le cœur dévoré, demain, l'oubli sera fait, je serai libre. Mais demain ne venait jamais. Lentement, les liens autrefois brisés resserraient autour d'elle leurs nœuds. Par une amère dérision, la cage était devenue un asile, car elle ne respirait plus derrière les barreaux jadis détestés. Le personnage qu'elle affectait d'être détruisait l'autre peu à peu, et les rêves qu'il avait portés tombaient un par un, rongés par le ver invisible, l'ennui. L'obscure petite ville qu'elle avait bravée, l'avait reprise, se refermait sur elle, la digérait. Mouchette a contaminé son second amant, le docteur Gallet, un ridicule fantoche, dit le roman, et lui-même, voici ce qu'il vit, sa dissimulation constante, quotidienne, étonnée jusqu'à sa maîtresse. Sans connaître peut-être pleinement l'étendue de son pouvoir, elle en trouvait la mesure dans la profondeur, la ténacité, la minutie du mensonge. Dans ce mensonge, le malheureux se délectait. Le pusillanime en était à chercher parfois le risque à le tâter, il y goûtait une âpre revanche. La longue humiliation de sa vie conjugale y crevait comme une bulle de boue. Que Mouchette a annexé ce docteur marié. L'exemple suprême se trouve dans l'imposture et la joie avec l'abbé Sénabre, dont la vie n'est que mensonge sous le masque du prêtre irréprochable, historien compétent de la vie mystique. Il dissimule son état intérieur, il n'a plus la foi. Son imposture est permanente, mais il la cache habilement. Au cours d'une nuit tourmentée d'angoisse, il convoque l'abbé Chevance, un simple prêtre. Alors l'abbé Chevance est aussi un héros de l'imposture et de la joie, hein, comme dit un pauvre prêtre, une espèce de saint très caché, que les gens s'en moquent en l'appelant le confesseur des bonnes. Alors il dit, ce qui semblait à d'autres son existence, sa personnalité véritable, était né de circonstances éphémères, inconsistantes comme elle. À peine si la répétition des mêmes actes avait pu, au cours des ans, à la longue, former quelque ombre, prêter une certaine réalité au fantôme. Il l'imaginait ainsi du moins. Car lentement désagrégé par la délectation du doute volontaire, par le sacrilège d'une curiosité sans amour, la croyance s'était évanouie totalement comme une fonction qui ne survivrait pas à l'organe détruit dont il ne subsisterait même pas le besoin. L'abbé Sénabre dit à l'abbé Chevance, j'ai perdu la foi. Mais le comble de la vie fondée sur le mensonge est sans doute atteint par M. Wynne, dans un roman étrange, difficile, déconcertant, le plus terrible de Bernanos, un livre absolument étonnant. À la fin de sa vie, dans Les Enfants humiliés, Bernanos reviendra sur l'imposture et le mensonge. Il y a belle lurette que le problème de l'imposture m'apparaît comme essentiel. Qui le résoudrait aurait la clé de tous les autres, de tous ceux que pose le malheur de l'homme. L'imposteur et l'imposture ne font qu'un. Il y a une fatalité sous l'imposture. Si l'imposture n'était telle, il ne serait ni vrai ni faux, il ne serait rien. Il défendrait son imposture comme sa vie, car elle est en effet sa vie. Donc vous voyez, littérature, luxure, drogue, mensonge, toutes ces tentatives de fuite de soi-même ne procurent aucun apaisement. Au contraire, elles aggravent la situation et peuvent acculer les personnes à la tentation du désespoir. Une réalité qui apparaît non seulement dans l'œuvre romanesque, mais aussi dans l'œuvre de combat. Il est très révélateur que la première partie de « Sous le soleil de Satan » porte ce titre, « La tentation du désespoir », qui est celle à la fois de Mouchette, qui va se suicider, qui sera quand même sauvé par l'abbé Donissant, et la propre tentation des espoirs de l'abbé Donissant luttant contre le mal dans sa paroisse. Dans la préface des grands cimetières sous la lune, est une merveille, une préface de grands cimetières, Bernanos avoue, le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon ? Phrase très importante. Le démon de mon cœur. Cette question se pose à nombre de personnages dans son œuvre. Pour lui, c'est la question sans réponse par laquelle s'exprime l'espèce la plus insidieuse de la plus redoutable du désespoir. En effet, alors au niveau de sa vie, il lutte pour la vérité et la liberté. Mais il a été déçu par la fin de la guerre de 14-18 en espérant qu'il y aurait une reprise. Non. Après, il y a eu le Front populaire. Après, il y a la guerre d'Espagne. Après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a la guerre froide. Après, il y a la bombe atomique. Je dirais, et nous prions pour le Moyen-Orient depuis 60 ans. Il ne faut pas se décourager. Hein. Donc, à quoi bon ? Car celui qui combat, ça revient toujours, c'est comme le chien d'or. Alors, on pourrait baisser les bras en disant, voilà, et les gens qui baissent les bras. Dans son imposture, l'abbé Sénave rencontre la sinistre parole qui est au principe de tous les abandonnements. À quoi bon ? Et Mouchette aussi, dans la... Alors, attention, Mouchette, elle est dans « Sous le soleil de Satan », mais elle est aussi dans une nouvelle qui s'appelle « Nouvelle histoire de Mouchette ». Elles n'ont pas de rapport. Bernanos a été assez grand pour trouver un autre nom. Il a voulu garder le même, c'est son problème. Dans la nouvelle histoire, Mouchette est une jeune encore de 16-17 ans. Le « à quoi bon ?», la question terrible, inexorable, à laquelle nul homme réellement passionné n'a pu répondre, et qui a décidé du salut de quelques rares héros par un miracle de grâce, car elle se retourne d'ordinaire contre celui qui les prononce, symbole de l'antique serpent, ou peut-être ce serpent lui-même n'arriva pas jusqu'à ses lèvres. Et la phrase est longue, mais le à quoi bon n'arriva pas aux lèvres de Mouchette. Elle se posait au-dedans d'elle, informulée, car Mouchette est un petit chat sauvage, paysan, dans une famille très pauvre. Ça. Ceux et celles qui ont ainsi les frontières du désespoir partagent un autre sentiment. Ils ne s'aiment pas, ou pire, ils se haïssent. Ils ont perdu ce goût élémentaire de la vie qui s'exprime dans l'amour de soi. Ainsi Simone Alfieri. La seule haine qu'elle eut vraiment connue, éprouvée, consommée jusqu'à la lie, c'était la haine de soi. Elle s'était haïe dès l'enfance. Et l'auteur commente... Toute folie à son paroxysme finit par découvrir dans l'homme, ainsi que la dernière assise de l'âme, cette haine secrète de soi-même qui est au plus profond de sa vie, probablement de toute vie. Le vieil écrivain Guéroux tire la même conclusion de ses expériences amères. Ce que le vice a du bon, c'est qu'il apprend à haïr l'homme. Tout va bien jusqu'au jour où l'on se hait soi-même. Et dans la nouvelle Dialogue d'ombre, le romancier Jacques demande à sa maîtresse Françoise « Mon amour, quel étrange plaisir prenez-vous à vous humilier ?» Elle répond « J'ai cédé une fois, je me suis donné, non par amour ni curiosité, encore moins par vice, seulement pour franchir ce cercle magique, me retrouver enfin du fond de l'humiliation, de dégoût, de la honte, avoir à rougir devant quelqu'un. » Comment s'étonner que Mouchette haïsse sa propre chair, la roule dans la boue de la route. Elle a été violée par une brute ivre. Et dans la profanation volontaire de son corps, elle trouve une sorte de joie dénaturée. Elle savoure ce dégoût avec une lucidité qui lui paraît merveilleuse. Quant à Jean Bedelaine, un personnage étonnant d'une châtelaine dans Monsieur Wynne, et déclare haïr M. Wynne autant que son propre corps, qu'elle couvre à plaisir de vieux chiffons ridicules pour l'humilier. Petite parenthèse, je suis toujours ahuri, comme tant d'autres, de la mode du piercing, de se percer toutes les parties du corps que notre jeunesse souvent adopte, et qu'est-ce que ça signifie de se mutiler comme ça. Et aussi, je dirais, mais ça, je ne devrais pas, comme évêque, donner mon avis là-dessus sur la mode, mais pourquoi tant de jeunes filles, par exemple, passent son temps en s'habillant, en s'alaidissant autant qu'elles peuvent? Mystère. À cette haine de son propre corps se joint une honte de l'âme, un goût pervers de l'humiliation, proche du masochisme, du sadisme, si prononcé chez les héros de Dostoïevski. Comment ne pas évoquer le russe Fiodor, le chauffeur immigré de Monsieur de Clergerie dans La Joie? Et Chantal perce son secret. Elle lui dit: « Je sais que vous haïssez votre âme et que vous la tueriez si vous pouviez. » Et il répond: « En effet, elle est un fardeau assez lourd. » L'abbé Sénabre se méprisait, se haïssait dans sa détresse et dans sa honte, mais il ne pouvait se prendre en pitié. Dès lors, il recherche l'amère ivresse de se mépriser chez les autres. Il ne s'aime pas, s'explique. Et alors, ça nous vaut une scène extraordinaire dans l'imposture de la rencontre de l'abbé Sénabre avec un clochard, disons SDF, je ne sais pas, un clochard, hein, qui est vraiment lamentable au bord de la route. Et là, il y a une scène extraordinaire de 15 pages, et ce malheureux clochard, qui ment comme il respire, espère recevoir une aumône du prêtre, qui d'ailleurs lui donnera pas, mais qui lui renvoie l'abjecte caricature de sa propre déchéance. Malgré les apparences, la même perversion unit les deux hommes. Quand il dit « Je ne veux pas qu'on me respecte », »,« Est-ce que je me respecte, moi ?» dit le clochard. Il parle aussi au nom de l'abbé Sénat. L'écrivain philosophe Gabriel Marcel a fait une remarquable analyse de la curiosité sans amour qui s'applique parfaitement à l'abbé Sénabre, à l'écrivain Gans et surtout à Monsieur Wynne. Voici ce que dit Gabriel Marcel. Il existe une concupiscence de la sincérité qui n'est que l'exaltation de toutes les forces de négation qui sont en soi et qui peut être la forme la plus proprement satanique du suicide. L'extrême orgueil, par une perversion sans mesure, y simule l'extrême humilité. En s'abandonnant ainsi au démon de la connaissance, sans s'être soumis auparavant à aucune ascèse, à aucune purification du vouloir, l'âme instaure pour elle-même, sans en avoir d'ailleurs pleinement conscience, une idolâtrie dont les effets ne peuvent être que ruineux, en ce qu'elle favorise et entretient cette espèce de satisfaction dans le désespoir. Concupiscence de la sincérité, idolâtrie de la connaissance intime, exaltation perverse liée à l'analyse dépréciative de soi, autant d'expressions synonymes qui désignent un mal unique, l'aveuglement qui permet au moins d'ignorer la volonté cosmique d'amour à l'œuvre dans l'ensemble en lui. Dans l'ensemble, en lui et hors de lui. La pitié envers soi-même ne saurait être isolée un seul instant de la pitié envers autrui. Comment aimer les autres comme soi-même si on ne s'aime pas? Le psychiatre Lipote voit dans la honte le pire ennemi de l'homme. Mouchette explique au docteur Gallet quel plaisir elle y trouve. On a honte, bien sûr, si tu veux, on a honte. Mais entre nous, depuis le premier jour, est-ce qu'on cherche autre chose? Le jeune Olivier, qui représente la génération 1920 après la guerre, fait l'analyse de cette haine tenace de soi. Vous vous haïssez tous. Vous haïssez votre corps d'une haine sournoise, amère. Vous le haïssez de l'enfance. Allez, le christianisme est bien dans vos moelles. Et votre fameuse démoralisation d'après-guerre, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a restauré la notion du péché. La notion du péché sans la grâce, imbécile. Vous méprisez votre corps parce qu'il est l'instrument du péché. Alors là, nous touchons déjà comme la suite. Hein. Voyez, la fameuse démoralisation d'après-guerre, Première Guerre mondiale, elle a restauré la notion du péché. Arsène, le maire de la paroisse morte, passe son temps à s'inonder d'eau pour se purifier. Le docteur Malépine le considère comme un banal obsédé sexuel. Il ne saisit pas la profondeur du mal que vit son patient. Autour de lui, nul ne se goûte que le dégoût, sinon le remords des plaisirs hélas sans retour, hante la conscience du malheureux, tout environné du pressentiment de la mort. Bien que sa raison soit déjà enténébrée par la folie, Arsène pressent le lien qui unit la haine et la mort. Il clame « Le dégoût, personne ne sait ce que c'est. Moi, je vous le dis, c'est dans l'homme. Pour moi, je pense que ça ressemble à la mort. Tout pareil. On ne s'imagine pas la mort. » En février 1947, en une conférence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne sur révolution et liberté, Bernanos écrit, dit ceci. Il parle de cette mystérieuse haine de soi. Mais si l'homme était réellement créé à l'image de Dieu, il parle à la Sorbonne, hein, à un monde fou, il y a toutes sortes de gens. Et Bernanos, malgré tout, était célèbre à ce moment-là, on lui demande des conférences un peu partout. Mais si l'homme était réellement créé à l'image de Dieu, qu'il ait en lui une proportion quelconque, si petite qu'on le suppose, de liberté, à quoi donc aboutiraient leurs expériences, dans le monde, sinon à la mutilation d'un organe essentiel? S'il existait dans l'homme ce principe d'autodestruction, cette mystérieuse haine de soi que nous appelons péché originel, et que les techniciens n'ont pas manqué d'observer, car il explique toutes les affreuses déceptions de l'histoire. C'est vrai qu'ils le mettent non au compte de l'homme, mais à celui d'une mauvaise organisation du monde. S'ils se trompaient pourtant, si l'injustice était dans l'homme, et que toutes les contraintes ne fissent qu'en renforcer la malfaisance, si l'homme ne pouvait se réaliser qu'en Dieu, si l'opération délicate de l'amputer de sa part divine, ou du moins d'atrophier systématiquement cette part jusqu'à qu'elle tombe desséchée comme un organe où le sang ne circule plus, si cela aboutissait à faire de lui une bête féroce, ou pis, peut-être, une bête à jamais domestiquée, un animal domestique, ou moins encore un anormal, un détraqué. Alors là, il y a quand même un autre livre de Julliard sur Pascal, toujours Julliard, Nouvel Homme, Somme de Gauche, tout ça, qui dit exactement ça, tout récemment. Il dit, vous avez vu, une mauvaise organisation du monde. Hein, il dit, c'est pas le marxisme qui va donner le secret de l'homme. C'est le péché originel. C'est inattendu. Hein. Et il dit, c'est ça qu'il reproche au socialisme. Hein. Ils n'ont pas vu la profondeur de l'être humain et ce que c'est. Bon. Alors, quand Bernanos écrit ça, dit ça à la Sorbonne en 1947, c'est il y a eu la bombe atomique, il y a la guerre froide, et on ne sait pas s'il n'y a pas une troisième guerre mondiale, etc. Donc, vous voyez que ça correspond, on retrouve les mêmes termes que dans les romans. On comprend pourquoi la prière des dialogues des Carmélites, mais Sœur Blanche de la Force en garde contre cette tentation. Il est très difficile de se mépriser sans offenser Dieu en nous. Ce mépris de vous-même vous conduirait tout droit au désespoir. Aucune haine ne saurait s'assouvir en ce monde ni dans l'autre, et la haine qu'on se porte à soi-même est probablement celle entre toutes pour laquelle il n'est pas de pardon. Fin de citation. L'enfer, état de fermeture totale, commence dès cette terre. Des vivants peuvent être comme des morts. Monsieur Guéroux, qui est en conversation avec un médiocre journaliste catholique qui s'appelle Pernichon, alors là, la satire bernanosienne s'en donne à cœur joie, il lui dit « Haïr en soi sa propre espèce, n'est-ce pas l'enfer ? Croyez-vous à l'enfer, Pernichon ? Mais c'est le curé de campagne qui pénètre le mieux l'état du pécheur. Vous ne vous désirez plus, vous ne désirez plus votre joie, vous ne pouviez que vous aimer en Dieu, vous ne vous aimez plus. Et vous ne vous aimez plus jamais en ce monde, ni dans l'autre éternellement. » Alors Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Mais à la comtesse révoltée et désespérée que nous rencontrerons encore, qui a perdu son enfant et qui vit une vie chrétienne extérieure parfaite, mais qui est dans le désespoir et qui va rencontrer le jeune prêtre, il lui dira, l'enfer, madame, c'est de ne plus aimer. Et on peut dire, l'enfer, c'est de ne plus s'aimer. En ce sens, l'enfer n'est pas un au-delà. Hein? Et dans une vie de Jésus, que Bernanos n'a écrit que 2 pages, il comptait écrire une vie de Jésus, il attendait, parce qu'il disait, je n'ai pas encore assez souffert pour l'écrire. Et quand il est en train de mourir de son cancer à l'hôpital américain de Neuilly, assisté par l'abbé Pezeril, qui a écrit un texte magnifique sur ce mois qu'il a passé avec lui, Bernanos dit, maintenant je vais l'écrire. Et il en écrira 1,5 pages, mais il meurt. Et il est dit là, l'enfer de ce monde est l'enfer lui-même, c'en est le porche et le sérail. Et les gens qui étaient à Auschwitz ou dans les goulags disaient, nous sommes en enfer. Il est sur cette terre la rupture de toutes les communications, de toutes les solidarités. C'est une sorte de solitude sacrée fondée sur une rupture totale, définitive avec la société des hommes. Voilà pourquoi tant de personnages bernanosiens souscrivent à la parole du jeune Olivier dans Un mauvais rêve, ou Monsieur Witt, je ne sais plus, je ne m'aime plus, je ne peux pas vivre sans m'aimer. Et dans cette logique, le suicide ratifie un état de fait. Dans l'imposture, Bernanos a analysé le processus qui peut aboutir à l'acte suicidaire. Vous avez introduit le péché dans l'épaisseur de votre chair, et le monstre n'y meurt pas, car sa nature est double. Il s'engraissera merveilleusement de votre sang, profitera comme un cancer, tenace, assidu, vous laissant vivre à votre guise, aller et venir, aussi sain en apparence, inquiet seulement. Vous irez ainsi de plus en plus secrètement séparés des autres et de vous-même, l'âme et le corps désunis par un divorce essentiel, dans cette demi-torpeur que dissipera soudain le coup de tonnerre de l'angoisse, l'angoisse formideuse et corporelle du remords. Vous vous réveillerez dans le désespoir qu'aucun repentir ne rédime, car à cet instant même expire votre âme. C'est alors qu'un malheureux écrase d'une balle un cerveau qui ne lui sert plus qu'à souffrir. En fait, il y a, je vous l'ai dit, 12 personnages se suicident effectivement dans les romans, avec pas mal de jeunes d'ailleurs, et il y a plusieurs manières de le faire. À la manière du « je me tue », il faut ajouter celle du « je me laisse mourir » et celle aussi du « je me laisse vivre ». Combien de personnes qui se croient vivantes alors qu'elles n'ont plus que l'apparence de la vie? Quelle est trompeuse cette citation, cette hypocrisie fondamentale, non des attitudes, mais des intentions, qui fait de la vie de beaucoup d'hommes un drame hideux, dont ils ont eux-mêmes perdu la clé, un prodige de duperie et d'artifice, une mort vivante. Dans la mort de son enfant, malheur qui a suscité sa révolte et sa haine de Dieu, la comtesse du journal a vécu dans la paix terrible des âmes refusées, menant une vie digne de chrétienne vertueuse. Mais le désespoir l'habite. Et le jeune curé d'Andrécourt n'hésite pas à comparer devant elle un suaire de soie jeté sur un cadavre pourri. De son côté, l'abbé Senabre ne souhaite ni ne redoute la mort, car il emporte singulièrement l'image en lui-même. Elle est déjà sa certitude et son repos. Tout avait déjà été dit dans La tombe refermée d'avril 1914, une nouvelle de Bernanos très courte. Ce titre évoque la brève évocation d'une vie extrêmement brillante qui ne laisse subsister aucun équivoque. C'est l'histoire d'un homme d'État, diplomate, écrivain, ornement de la Revue des Deux Mondes, futur immortel, monsieur de Candolle, qui n'est qu'un cadavre. Sa jeune compagne, sa maîtresse, a décelé son secret. Vous croyez avoir vaincu, vous êtes mort seulement. Ne voulant pas à être entraîné à se tuer à son tour, elle le quitte à jamais. Et la nouvelle s'achève sur ces lignes. Il se désespère orgueilleusement de sa solitude. Il a refermé sur lui le couvercle du cercueil. Certains ne recherchent pas volontairement la mort, mais quand elle se présente, ils ne la fuiront pas. Les blessures reçues par la châtelaine Jean de Laine lors de son lynchage par une foule furieuse n'étaient pas si graves. Mais l'as de vivre, elle a saisi l'occasion. Elle s'est laissée mourir. Sans passer à l'acte, plusieurs personnages, pour des raisons diverses, ont songé au suicide. Le curé de Torcy lui-même, le docteur Laville, Chantal, la fille de la comtesse, la bonne Francine, la servante, et Olivier, qui dit « Ah, si j'avais le courage de me tuer !» Bernanos croit à une certaine prédestination au suicide. Seuls certains êtres emportent le signe. Bon, je passe. Ne se suicide pas qui veut, etc. Et le docteur Laville dit « Le goût du suicide est un don, un sixième sens, je ne sais quoi. On est avec. » Évidemment, à l'origine de l'acte suicidaire, nous avons rencontré des espoirs. Mais il faut distinguer entre le désespoir des intellectuels et celui des êtres sains. Les premiers l'expriment, l'analysent. Fiodor, Philippe, Bernichon déclarent que la vie est absurde. Trouverait-il une seule raison de vivre, il consentirait à prolonger l'expérience. Mais ils sont au bout du rouleau. Au bout du rouleau était aussi le premier titre que Bernanos avait pensé pour un mauvais rêve. Le curé de Torcy commente longuement le suicide du docteur Delbande dans le journal de fin de campagne, son ami. Docteur Delbande est un incroyant qui soigne les gens pauvres. Il est révolté par l'injustice. Il cherchait le sens de sa vie tout en soignant les pauvres. Le vrai, dit le curé de Torcy, est qu'il ne se consolait pas de ne plus croire. Les gens simples ignorent les subtilités de l'analyse intérieure. Les habitants des campagnes, les enfants, les jeunes se jettent dans la mort sans hésiter. La cuisinière Fernande, dans l'imposture, dit « Les gens du grand monde se détruisent moins souvent que nous. » C'est un fait. C'est le cas de la seconde mouchette. La brèche à peine ouverte du désespoir dans ces âmes simples, il n'est sans doute d'autres ressources à leur ignorance que le suicide du misérable, si pareil à celui de l'enfant. Ainsi, le jeune Clergeon, dans Un crime, un autre. Alors, Bernanos gagnait pas beaucoup d'argent, ou plutôt il ne savait pas trop le gérer. Il dit, il faut que je fasse un polar. Je vais faire du fric avec un polar. Alors, il a commencé Un crime. Mais au bout d'un temps, il dit, oh là là, ça ne va pas. C'est encore du Bernanos. Alors, c'est un bouquin intéressant. Mais on retrouve plein de choses d'ailleurs. Le mauvais rêve, tout ça. Alors, dans Un crime, un jeune Clergeon s'est engagé dans toute son ardeur juvénile au service du curé de Mégère. Mais c'est un faux prêtre. Et c'est même une bonne femme déguisée en prêtre. Alors, il est déçu à la racine de son espérance et il se jette dans la Bidassoa. Déçu par les grandes personnes, par la vie, par l'amour, Mouchette, muré dans son désespoir, se laisse glisser dans la rivière sans desserrer les dents. Incompris et buté, silencieux dans la révolte, les époux Hélène et Eugène de Vendôme, dans Monsieur Wynne, entrent ensemble dans la mort avec une résignation animale. Arsène, après avoir tenté vainement de retrouver une pureté perdue, le maire, disparaît du village en laissant pour testament un seul mot, adieu. Il est allé sans doute se tuer dans quelques coins de la campagne, comme il l'avait dit plusieurs fois. Ses efforts tragiques pour exprimer le mal qui le dévore n'ont rencontré que l'incompréhension de sa femme et les moqueries de ses administrés. Que sait-on ce qui se passe en celui qui se tue au moment où il accomplit le geste ultime? Un sentiment étrange, un mystérieux dédoublement de la personnalité qui fait qu'à cet instant, le désespéré se détache de son propre sort. Un autre caractère du suicide réside dans sa soudaineté. On croit généralement que l'acte du suicide est un acte semblable aux autres, c'est-à-dire le dernier maillon d'une longue chaîne de réflexion ou du moins d'image, la conclusion d'un débat suprême entre l'instinct vital et un autre instinct, plus mystérieux, de renoncement, de refus. Il n'en est pas ainsi cependant. Si l'on accepte certaines formes d'obsession qui ne relèvent que de l'aliéniste, le geste suicidaire reste un problème inexplicable, d'une soudaineté effrayante, qui fait penser à ces décompositions chimiques sur lesquelles la science à la mode, encore balbutiante, ne fournit que des hypothèses absurdes ou contradictoires. Bon. Je passe un peu parce que tout ça n'est pas forcément très gai. Mais, bon. Pour Mouchette, son geste suicidaire coïncide avec l'entrée en elle du cruel Seigneur, citation, dont elle a sollicité la venue. Là, nous sommes au niveau de la possession. Il vint aussitôt, tout à coup, Satan, et elle comprit que l'heure était venue de se tuer, sans aucun délai surtout, à l'instant même. Il l'appelle petite servante de Satan, Sainte Brigitte du Néant, elle devient à la lettre une possédée. Le prince de ce monde veut la ravir à son divin rival et désire hâter la mort de sa victime, car il redoute que la grâce de Dieu lui dérobe sa proie. Il se glisse entre l'idée meurtrière et son accomplissement. Il n'est jamais certain d'une victoire définitive. Là, l'histoire bien fameuse du curé d'Ars, la dame, son mari s'est suicidé, elle dit au curé d'Ars, mon mari est peut-être en enfer, le curé lui dit, entre le pont et la rivière, il s'est jeté, il a eu le temps de se repentir. Et c'est vrai, car l'abbé Nonissant aura le temps de porter Mouchette mourante à l'église, et par ailleurs, l'abbé Sénard, qui veut se suicider, se mettre une balle de revolver dans la tête, l'arme s'enrayera. Et il sera, disons, sauvé par Chantal, etc. Dans cette perspective, se suicider est l'aboutissement du désespoir et la chute dans l'univers de l'ange des ténèbres. Par le péché, la mort est entrée dans le monde, mais la racine ultime du mal ne se trouve pas dans le cœur de l'homme, qui est manipulé par celui qui fait entrer la mort dans la famille humaine. N'oublions pas que le mythe de Sisyphe de Camus commence par « Le suicide est le seul vrai problème philosophique ». Le bouquin commence comme ça. Nous sommes quand même aussi à l'époque du règne de l'existentialisme, après la guerre, hein, avec tout l'univers existentialiste de Camus, c'est très différent de Sartre, tout ça. J'ai reçu une invitation de la fille de Camus, aller la voir à Lourmarin, où elle habite bientôt. Bon, ça c'est autre chose. Et donc, on est dans cet univers-là, il faut bien dire. Enfin, nous entendons assez parler de suicide de jeunes, et on en a peut-être parlé moins qu'il n'en existe. Sous le soleil de Satan fut donc un coup de tonnerre dans l'univers français de l'après-guerre. On y rencontrait le diable en personne sous les apparences d'un jovial maquignon. Bernanos va évoluer. Dans Monsieur Wynne, la conception bernanosienne du mal a évolué, gagnant en profondeur. Satan n'y est plus matérialisé, mais son esprit est présent partout, sans s'identifier vraiment avec telle ou telle personne, même pas à celui de Monsieur Wynne. Pourtant, de tous les personnages créés par l'auteur, M. Wynne est sans doute le plus satanique. Ce livre est d'ailleurs le plus grand effort de la vie d'écrivain, dit-il. Commencé en 1940, il se ressemble à la catastrophique défaite française qui a accablé l'ancien combattant de 14-18. Occasion de vérifier que l'œuvre romanesque se révèle intimement liée à la conjoncture historique. Pas seulement les œuvres de combat, mais même les romans. Monsieur Arras, dont je vous ai parlé, a bien souligné. Comme dans toute œuvre réellement grande, ce que Monsieur Wynne a de local et d'individuel se charge d'une signification universelle. C'est pourquoi Fenouille est bien plus qu'une petite paroisse perdue dans la France du Nord. Elle est en réalité une image du monde, ou plus exactement, une extériorisation de la tragédie spirituelle de notre temps telle que Bernanos l'a vécue. Bernanos a dit « Sous le soleil de Satan » est un livre né de la guerre. La guerre 14-18. Dans cette paroisse morte, l'aspect roman policier, qui a tué le petit valet, on a trouvé un rapport, qui a tué, cache une tragédie collective. L'esprit du mal a contaminé tout le village, et le curé n'y peut plus rien. Il est comme refoulé de sa paroisse. On ne saura jamais qui est l'assassin. Le sommet du livre décrit l'agonie de M. Wynn qui aboutit à rien, au néant. D'ailleurs, oui, non. Il n'y a pas de choix. La mort elle-même n'a plus de sens pour le professeur d'anglais. Il dit, j'ignore ce que vous entendez par ce mot. La mort fut toujours pour moi le dénouement d'un drame moral. Je crains d'avoir manqué ce drame. Il n'y a en moi ni bien ni mal, aucune contradiction. La justice ne saurait plus m'atteindre. Je suis hors d'atteinte. Tel est probablement le véritable sens du mot perdu. Non pas absous ni condamné, notez bien, perdu, oui perdu, égaré, hors d'atteinte, hors de cause. Toutes les images employées de ce long dialogue entre Philippe et M. Wynn sur son lit d'agonie aboutissent à M. Wynn est plein de vent comme une outre. La mort elle-même perd tout sens dans cet univers sans amour. Nous sommes au cœur du mystère du mal. Et là, la critique Claude Edmond Magny a très bien décrit l'évolution de Bernanos entre ce soleil de Satan et M. Wynn. Là, je renvoie aux théologiens parce que c'est progressif, on renvoie à Maritain, tout ça. Le mal existe et pourtant n'est pas. M. Wynn se dissout et retourne au néant. Il redevient ce qu'il est, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, une fois privé du support charnel qui lui conférait un semblant d'existence. Dans son journal, le curé d'Ambrecourt constate « Le monde du mal échappe tellement, en somme, à la prise de notre esprit. D'ailleurs, je ne réussis pas toujours à l'imaginer comme un monde, un univers. Il ne sera jamais qu'une ébauche, l'ébauche d'une création hideuse, avortée, à l'extrême limite de l'être. Je pense à ces poches flasques et translucides de la mer. Qu'importe au monstre un criminel de plus ou de moins, il dévore sur le champ son crime, l'incorpore à son épouvantable substance, le digère sans sortir un moment de son effrayant, de son éternelle immobilité. Mais l'historien, le moraliste, le philosophe même ne veulent voir que le criminel, ils refont le mal à l'image et à la ressemblance de l'homme, ils ne se forment aucune idée du mal lui-même, cette énorme aspiration du vide, du néant. Un autre aspect du désespoir se révèle dans la médiocrité. Et là, il faudra que j'arrive à... Oui, je viendrai. Sur Satan lui-même. La médiocrité. Bernanos a décrit des êtres qui font face, qui se jettent dans le mal ou dans le bien. Mais ils n'aiment pas beaucoup ce qui est entre deux. Nous l'avons vu avec l'abbé Sénard, les deux mouchettes, etc. Et nous le reverrons avec les saints bernanosiens. Mais entre les deux se trouve la foule des médiocres. Monsieur de Clergerie, le père de Chantal, Pernichon, le journaliste catholique, un certain nombre d'écrivains. Alors là, la verbe bernanosienne s'exerce aussi face aux prêtres. Les prêtres qui jouent aux humanistes, honteux de leur foi, qui veulent tout arranger. Les prélats onctueux et peureux, cherchant à tout concilier. La satire du monde catholique bien-pensant se fait parfois féroce. La grande peur des bien-pensants, etc. En première ligne se trouve le prêtre médiocre, qui pour Bernanos est une sorte de non-sens. Le curé d'Ambrecourt ne juge pas son confrère qui vit avec une femme, mais il médite sur cette existence. Je sais que mon malheureux ami ne mérite pas le nom de mauvais prêtre. Je suppose qu'il est sincèrement attaché à sa compagne, car je l'ai connu jadis sentimental. Le prêtre médiocre, hélas, l'est presque toujours. Peut-être le vice est-il moins dangereux pour nous qu'une certaine fadeur. Il est des ramollissements du cerveau, le ramollissement du cœur est pire, le prêtre médiocre est laid. Je vous laisse méditer. Le curé de Torcy réfléchit sur l'histoire du docteur Delbande. Tout le mal est venu peut-être de ce qu'il haïssait les médiocres. Tuez les médiocres, lui disais-je. Il ne s'en défendait guère, car c'était un homme juste. On devrait prendre garde, vois-tu. Le médiocre est un pied du démon. La médiocrité est trop compliquée pour nous, c'est l'affaire de Dieu. En pleine Seconde Guerre mondiale, Bernanos écrit dans un journal brésilien. Ce sont les chrétiens médiocres, les prêtres médiocres qui perdent le monde. Les chrétiens béats, qui sont aussi le plus souvent les béati possidentes. Ce sont les médiocres qui, pour sauver le reste, vendent morceau par morceau l'honneur de mon pays, qui empruntent à la petite semaine sur l'honneur de mon pays. Que leur médiocrité ne leur serve pas d'excuse. Les plus grandes canailleries de l'histoire n'ont pas été commises par les plus grandes canailles de l'histoire, mais par les lâches et les impuissants. Rien ne peut remplacer la lecture des romans bernanosiens, parce qu'elle montre la vie profonde des âmes à travers les descriptions, l'image, plus que par les idées. Il confiait à son ami Robert Valéry Radeau, père de famille, écrivain, que j'ai connu car il est entré à la fin de sa vie à la trappe de Briquebec, il a fini moine, c'est un grand ami de Bernanos, et je voudrais lancer dans mes livres des escadrons d'images. Pour exprimer le mal, une image revient souvent, vous l'avez entendu, alors vous n'avez pas encore entendu vraiment, celle du froid. Satan règne sur une armée de cadavres. Le maquignon de sous le soleil de Satan confie au curé Donissant. Pour moi, j'ai froid, je l'avoue, j'ai toujours froid. Je suis le froid lui-même. L'essence de ma lumière est un froid intolérable. De même, le génie de M. Wynne, c'est le froid. Dans ce froid, l'âme repose. Le curé de Fenoux s'adresse ainsi à ses paroissiens effarés dans un sermon. Vous vous sentez tout transi, tout froid. On parle beaucoup du feu de l'enfer, mais personne ne l'a jamais vu, mes amis. L'enfer, c'est le froid. D'où en contrepoint la réflexion du maire Arsène, qui rejoint l'expérience de tant mystiques chrétiens, dont Thérèse, la petite. Le feu, c'est Dieu que je me dis. Et la jeune Chantal affirme à son père: oh papa, moi aussi, je puis être triste. Non pas affligée, douloureuse ou même désolée, car enfin Notre-Dame était désolée au pied de la croix, mais triste de cette tristesse aussi froide que l'enfer. Il y a un vertige dans la tristesse, un sale vertige. Avec Satan, la tristesse est entrée dans le monde pour lequel notre Seigneur n'a pas prié, le monde que vous prétendez que j'ignore, il n'est pas si difficile à reconnaître, il préfère le froid au chaud. Il y a aussi chez les pères de l'Église, une fois qu'ils parlent de froid, Dieu c'est l'amour, c'est le feu. Je suis venu allumer un feu sur la terre et je souhaite une chose, c'est qu'il brûle. Hein, c'est pas le feu de l'enfer, c'est le feu de l'amour. J'ai dit Jésus. Une autre image que le froid, c'est la boue, le bourbier, si fréquente avec les paysages du nord de la France et avec la pluie. Dans la haine que les pécheurs se portent les uns aux autres, dans le mépris, ils s'unissent, ils s'embrassent, ils s'agrègent, ils se confondent. Ils ne seront plus aux yeux de l'Éternel que ce lac de boue toujours gluant, par quoi passe et repasse toujours vainement l'immense marée de l'amour divin, la mer de flammes vivante et rugissante qui a fécondé le chaos. Ça, c'est dans le journal Corée de Campagne. La paroisse morte de Fenoux ressemble à un bourbier dans lequel se débattent les habitants. Encore est-il des bourbiers tranquilles et comme en sommeil. La base de celui-ci paraît diablement active, au contraire, depuis quelque temps. On croit l'entendre bouillir et siffler. Remarque, ceci est à peine une image, cher ami. Nous connaîtrons un jour les lois encore mystérieuses qui règlent et accélèrent ou ralentissent ces sortes de fermentations. Voici le mot prononcé, fermentation. La fermentation, la décomposition. Hélas, monsieur, dit monsieur Wynne au prêtre, la pitié ne serait pas plus travaillée là-dedans qu'un chirurgien dans une nappe de pus. Oh, la sympathie, la compassion, souffrir avec. Pourrir avec, plutôt. Vous ne serez pas déçus, mais dissous, dévorés, dit monsieur Wynne au curé de campagne. Le mal ronge tout comme des champignons invisibles qui, en quelques semaines, font d'une pièce de chêne une matière sponcieuse que le doigt crève sans effort. On ne peut évidemment oublier l'image alors qui revient du cancer qui dévore tout et qu'on ne découvre plus tard. Bernanos a perdu son père d'un cancer en 1936 et lui mort lui-même d'un cancer le 5 juillet 1948. Pour clore cette méditation sur le péché qui nous a sûrement remonté le moral, mais qui va, après cette messe et cette prière, nous introduire cet après-midi dans la grâce et les saints et qui vous remettront sur le chemin de la résurrection, quelques réflexions du curé de campagne nous conduisent au mystère du mal. Que savons-nous du péché? Les géologues nous apprennent que le sol qui nous semble si ferme, si stable, n'est réellement qu'une mince pellicule au-dessus d'un océan de feu liquide et toujours frémissant, comme la peau qui se forme sur le lait prêt à bouillir. Quelle épaisseur a le péché? À quelle profondeur faudrait-il creuser pour retrouver le gouffre d'azur? Et un peu plus tard, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques jours au péché. À force de le définir à un manquement à la loi divine, il me semble qu'on risque d'en donner une idée trop sommaire. Les gens disent là-dessus bien des bêtises, et comme toujours, ils ne prennent jamais la peine de réfléchir. Voilà des siècles et des siècles que les médecins discutent entre eux de la maladie. S'ils s'étaient contentés de la définir un manquement aux règles de la bonne santé, ils seraient d'accord depuis longtemps. Mais ils l'étudient sur le malade, avec l'intention de le guérir. C'est justement ce que nous essayons de faire, nous autres, les prêtres. Alors, les plaisanteries sur le péché, les ironies, les sourires ne nous impressionnent pas beaucoup. Naturellement, on ne veut pas voir plus loin que la faute. Or, la faute n'est guère, après tout, qu'un symptôme. Et les symptômes les plus impressionnants pour les profanes ne sont pas toujours les plus inquiétants, les plus graves. Je crois, je suis sûr que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui donne l'illusion d'une véritable destinée. Ainsi fait, que peuvent-ils dire du péché? Qu'en savent-ils? Le cancer qui les ronge est pareil à beaucoup de tumeurs, indolores. Ou du moins, ils n'en ont ressenti pour la plupart, à une certaine période de leur vie, qu'une impression fugitive, vite effacée. Ailleurs, Bernanos a une phrase terrifiante qui dit « Il y a peut-être des gens, on dirait qu'il y a des gens, au moment où ils vont mourir, qui se sont jamais servis de leur âme. » Bon, j'en sais rien, j'espère que si, enfin... C'est un peu comme ça, les gens vivent à la surface d'eux-mêmes. Et là, on retrouve des réflexions de mon grand ami, le père Maurice Zundel. Et on se sent peut-être, il n'y a pas tellement de péché mortel, parce que, en un sens, il n'y a même pas la matière que les gens sont. Les gens, on n'a pas décidé de naître, on n'a pas décidé de son pays, on n'a pas décidé de ses parents, on n'a pas décidé de sa religion, on n'a décidé de rien du tout. On est à l'état de nature, et la véritable personne va naître lorsqu'elle va renaître en assumant sa personnalité, spécialement d'ailleurs dans le baptême, qu'il a fait enfant de Dieu. Mais sinon, les gens qui vivent au niveau de métro, boulot, dodo, télé, tout, j'ai rien contre la télé, bon, enfin. Alors, voilà. Et ça, il y a ça là. La méditation va continuer à se faire de plus en plus profond jusqu'à la limite du pensable. Alors, je remets ça au théologien, au philosophe. L'historien, le moraliste, le philosophe même, on a dit, ne veulent voir que le criminel. Ils refont le mal à l'image et à la ressemblance de l'homme. Ils ne se forment aucune idée du mal lui-même. Cette énorme aspiration du vide et du néant. Car, si notre espèce doit périr, elle périra de dégoût d'ennui. J'ai déjà fait la citation. L'homme n'est pas à l'origine du mal. Le vrai péché, le péché origine, est celui de l'ange qui a dit non, qui refuse le réel et veut refaire la création à l'envers. Urson Balthazar, dans son livre sur Bernanos, dit « L'inversion traverse toute l'œuvre de Bernanos. » Beau sujet de dissertation. L'inversion traverse toute l'œuvre de Bernanos. Retrouvant les expressions des pères de l'Église qui appellent Satan le singe de Dieu. Saint Jérôme, Justin le Martyr, Tertullien, etc. Et Bernanos écrit dans Les Enfants humiliés, le diable étant le saint de Dieu, on peut croire que la naissance de l'Antéchrist ne fera pas beaucoup de bruit dans le monde que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est la pensée du jeune curé d'Ambricourt. Je me dis parfois que Satan, qui cherche à s'emparer de la pensée de Dieu, non seulement la hait sans la comprendre, mais la comprend à rebours. Ceux qui ont quelques lettres se souviennent que Huysmans a écrit un roman qui s'appelait « À rebours ». Il serait peut-être à relire. N'empêche que fin 19e siècle, il y a une fermentation de tous ces problèmes avec Maupassant et tout ça, le satanisme, l'occultisme, extrêmement important. J'ai lu une préface d'un prof de Sorbonne sur ce moment-là à propos de Maupassant, c'est tout à fait étonnant. Tout ça paraît très calme, pas du tout. C'est un monde juste avant la guerre de 14. Le monde de Satan est un monde à l'envers. Bernanos, qui oserait nier que le mal ne soit organisé ? Un univers plus réel que celui que nous livrent nos sens, avec ses paysages sinistres, son ciel pâle, son froid soleil, ses cruels astres. Un royaume tout à la fois spirituel et charnel, d'une densité prodigieuse, d'un poids presque infini, auprès duquel les royaumes de la terre ressemblent à des figures ou des symboles. Un royaume à quoi ne s'oppose réellement que le mystérieux royaume de Dieu, que nous nommons hélas sans le connaître, ni même le concevoir, et dont nous attendons pourtant l'avènement. Nous ne sommes pas dans le manichéisme. Quand ce soleil de Satan est paru, il y avait l'abbé Donissant, le Maquignon, un dieu du bien, un dieu du mal, et certains disent c'est un roman manichéiste. Pas du tout. Bon, parce que là, c'est ça le manichéisme, qui est encore très présent dans la pensée actuelle souvent. Il y a deux dieux qui se bagarrent, on ne sait pas très bien qui va gagner, à voir le monde. Satan n'est qu'une créature, pas un dieu. C'est un ange déchu, un ange révolté. Son monde mensonger n'a qu'une apparence de solidité. On ne peut pas opposer une communion des pécheurs à la communion des saints que nous rencontrerons cet après-midi. Certes, dit Chantal de Clergery au docteur La Pérouse, le péché, nous sommes tous dedans. Les uns pour en jouir, d'autres pour en souffrir. Mais en fin de compte, c'est le même pain que nous rompons au bord de la fontaine, en retenant notre salive, le même dégoût. Il ne peut exister aucune solidarité dans ce monde de narcissisme, de non-communication, de solitude la plus absolue. Citation. Le diable, qui peut tant de choses, n'arrivera pas à fonder son église. Une église qui mette en commun les mérites de l'enfer, qui mette en commun le péché. D'ici la fin du monde, il faudra que le pécheur pêche seul, toujours seul. Nous péchons seuls comme on meurt. Le diable, voyez-vous, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Non, monsieur, oui. Il ne peut pas y avoir de communion, mais il peut y avoir une place pour la contagion du mal. Citation. Le grand malheur est que la justice des hommes vienne toujours trop tard. Elle réprime aux flétries des actes sans pouvoir remonter plus haut ni plus loin que celui qui les a commis. Mais nos fautes cachées empoisonnent l'air que d'autres respirent, et tel crime dont un misérable portait le germe à son insu n'aurait jamais mûri son fruit sans ce principe de corruption. Satan ne serait-il pas un très habile magicien, un illusionniste qui fait miroiter aux yeux des hommes un univers irréel, à l'extrême limite de l'être, une sorte de néant? Et voici ce que dit la prieure des Carmélites. J'ai toujours craint que vous vous trompiez lorsque la générosité vous inspire d'opposer à l'exaltation du mal l'exaltation du bien, ainsi que deux voix puissantes qui cherchent à se couvrir l'une l'autre. C'est quand le mal fait le plus de bruit que nous devons, les Carmélites, en faire le moins. Oui, c'est quand le pouvoir du mal, qui n'est d'ailleurs qu'apparence et illusion, se manifeste avec le plus d'éclat, que Dieu redevient le petit enfant de la crèche. Ça peut nourrir des méditations, tout ça, je crois. Bon, Alors, cette méditation sur le péché qui conduit au mystère du mal nous fait plonger aux ténèbres, car cette transcendance du mal par rapport à toute psychologie, ça c'est très important, rend le péché insondable. Hors de ses romans, Bernanos a explicité sa pensée bien souvent dans les grands cimetières sous la lune. Il est absurde de croire avec Jean-Jacques Rousseau que l'homme n'est bon. Il n'est capable de plus de bien et de plus de mal que n'en sauraient imaginer les moralistes. Car il n'a pas été créé à l'image des moralistes, il a été créé à l'image de Dieu. Et son suborneur, Satan, n'est pas seulement la force du désordre qu'il porte en lui, l'instinct, le désir, quel que soit le nom qu'on lui donne. Son suborneur est le plus grand des anges, tombé de la plus haute cime des cieux. Certes, l'expérience de l'histoire n'est pas sans profit pour les légistes et les politiques, mais l'homme dépasse toujours, par quelque côté, les définitions par lesquelles on prétend le cerner. Du moins, l'homme dont je parle. Celui-là ne veut pas son bonheur, comme il vous plaît de le dire. Il veut sa joie. Et sa joie n'est pas de ce monde, ou du moins, elle n'y est pas tout entière. Vous êtes libre, évidemment, de ne croire qu'à l'homo sapiens des humanistes. Vous auriez tort seulement de prétendre donner au mot le même sens que moi-même. Car votre ordre, par exemple, n'est pas le mien. Votre désordre n'est pas mon désordre. Et ce que vous allez appeler le mal n'est qu'une absence. La place vide laissée dans l'homme, ainsi que l'empreinte du cachet dans la cire. Alors, évidemment, les romans de Bernanos sont noirs, étouffants, pessimistes. Le journal de 20 heures n'est pas tellement très gai, ni rose. Est-ce que l'univers de la drogue qui est dans les écoles, celui du suicide des jeunes, la profanation des cimetières, les groupes sataniques, les actes terroristes qui s'étendent à la planète, sont plus réjouissants que l'imposture ou Monsieur Oui? C'est des réflexions personnelles. C'est la fin. Avant la messe. Il existe une abondante littérature du divertissement. Normal, il faut un temps pour tout. Mais quand un baptisé prend au sérieux sa vocation d'écrivain explorant le cœur humain, il ne peut nous donner qu'une vision catholique du réel. L'univers de Sartre, de Camus, de Malraux ne sont pas plus roses. La différence réside dans le fait qu'ils sont sans espérance face à l'absurde. Bernanos n'est pas plus noir que saint Paul, qui a écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». C'est ainsi qu'il y a une lumière au cœur des ténèbres. Après avoir rencontré cet univers organisé par l'esprit du mal, univers plus réel que celui que nous livrent nos sens, nous allons, cet après-midi, entrer dans celui des saints bernanosiens. Dans le monde vide, indifférent au silence de Dieu, des voix se font entendre qui prétendent affronter et vaincre la mort, connaître la joie indicible. Après avoir suivi jusqu'à l'abîme la marche désespérée des deux mouchettes, celle de l'abbé Sénard, de Simone Alfieri et de M. Wynne, gravissons maintenant avec Chantal de Clergerie, le curé d'Henricourt, les carmélites de Compiègne, le sentier raboteux qui conduit au calvaire et à la joie de Pâques. C'est pas beau, ça?